Bonjour et bienvenue dans Le Réveil Végétal, le podcast inspirant des acteurs du végétal proposé par le pôle de compétitivité Végépolis Vallée. Chaque semaine, découvrez les expertises de notre réseau, les projets, les petites et grandes réussites et autres actualités du moment.
Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Réveil Végétal où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Lacampagne, ingénieur d'études chez Terre Univia. Bonjour Jean-Paul, pouvez-vous vous présenter et présenter Terre Univia ?
Oui, bonjour à tous. Je m'occupe chez Terre Univia du suivi des marchés des pois et fèverolles, de la mise à jour de statistiques et aussi de l'appel de cotisation appelé CVO auprès des organismes collecteurs d'oléoprotéagineux et auprès des transformateurs utilisateurs de graines oléagineuses. Alors Terre Univia est une organisation nationale qui rassemble les associations et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et l'utilisation des oléagineux et des plantes riches en protéines.
Aujourd'hui, nous allons parler de protéagineux. Pouvez-vous nous dire qui ils sont ?
Alors, les protéagineux regroupent le pois protéagineux, la fèverole et le lupin doux. Alors, le pois et la fèverole contiennent principalement des protéines, 23% de la matière sèche pour le pois et 29% de la fèverole, pour la fèverole. Des protéines riches en acides aminés indispensables, dont la lysine. Alors, les pois et fèverole sont également appréciés car ils contiennent aussi de l'amidon et une part non négligeable de fibres et très peu de lipides.
Quelle est la différence entre pois protéagineux et petits pois ?
Alors, tous les pois appartiennent à la même espèce botanique, Pisum sativum. Alors, le pois protéagineux est également appelé pois sec. Il est récolté à maturité avec des grains secs et durs, alors que le petit pois est vert et tendre, car récolté bien avant sa maturité. Alors, les variétés de pois protéagineux et de petits pois sont différentes. Alors en France, près de 95% de la production de pois protéagineux présente des graines de couleur jaune et le reste est de couleur verte. Également, quelle est la différence entre fèves et fèverolles ? Je vais vous la préciser. Eh bien, donc fèves et fèverolles se différencient par la taille et donc le poids. On peut dire que la fèverole est une petite fève. Alors elles appartiennent à la même espèce, Vicia faba, mais les variétés ne sont pas les mêmes.
À quoi et ou à qui sont destinées ces cultures ?
Alors le pois et la fèverole présentent des débouchés variés en alimentation animale et humaine. Alors sur le marché intérieur, le pois jaune est destiné à l'alimentation animale, mais aussi à la fabrication d'ingrédients alimentaires, c'est-à-dire protéines de pois, amidon de pois, fibres, qui sont incorporées dans de nombreux produits de l'industrie agroalimentaire. Alors le pois vert est lui surtout destiné à la casserie, c'est-à-dire la fabrication de pois cassés. Par ailleurs, la France exporte des pois dans l'UE, surtout pour l'alimentation animale, mais également elle en exporte vers les pays tiers pour la consommation humaine. Par exemple, l'Inde dans un passé récent où le pois jaune remplaçait le pois chiche, et la France en exporte également vers la Chine depuis peu. Alors comme le pois, la fèverole sur le marché intérieur est utilisée en alimentation animale et à la fabrication d'ingrédients. Alors les exportations de fèverolles se font surtout à destination de la Norvège pour l'alimentation de saumon. Ces fèverolles sont exportées sous forme décortiquée. Alors la France, dans les années 2000 et au début des années 2010, a exporté d'importants volumes de fèverolles vers l'Égypte, premier pays importateur pour la consommation humaine, mais ce débouché s'est éteint pour la fèverole française en raison d'une qualité visuelle peu satisfaisante, avec des graines endommagées par un insecte qui s'appelle la bruche. Alors en pois comme en fèverole, ce sont les débouchés alimentation humaine qui sont amenés à se développer, avec aujourd'hui de plus en plus d'entreprises agroalimentaires, notamment des start-up, qui s'intéressent à ces matières premières avec des initiatives très innovantes.
Quelle surface représente-t-il ?
Alors après une chute en 2018, les surfaces pour pois protéagineux en France ont ensuite nettement progressé à 209 000 hectares en 2020, mais on est loin du record de 1993 qui était de 737 000 hectares. À titre de comparaison, le blé, c'est 4,3 millions d'hectares en 2020. Alors, la culture du pois est véritablement apparue en France à la fin des années 70 et s'est fortement développée dans les années 80 grâce à des mesures européennes très incitatives, à savoir un prix minimum garanti aux producteurs, une aide versée aux fabricants d'aliments qui utilisaient des protéagineux à la place du tourteau de soja. Mais ces mesures ont été en vigueur jusqu'en 1992-93, puis remplacées par une aide à l'hectare. Alors, la culture de la fève rôle a, elle, occupé 80 000 hectares en 2020, en progression depuis 2 ans, et le pic des surfaces avait été atteint en 2010, à 151 000 hectares, c'est-à-dire l'année de la mise en place d'une aide à l'hectare spécifiquement française qui s'ajoutait à l'aide européenne. Quant au lupin, 6 000 hectares en 2020, ces surfaces n'ont jamais décollé en France, au plus haut à 15 000 hectares en 2002.
Quels sont les freins liés au développement des surfaces?
Alors, du côté des producteurs, c'est surtout le niveau des rendements qui peut freiner le développement des surfaces de pois et fèverolles. Ils sont décevants depuis quelques années, mais il faut dire que les protéagineux ne sont pas cultivés dans les meilleures terres qui sont réservées à d'autres cultures. Il faut dire également que les conditions climatiques depuis plusieurs années n'ont guère été favorables aux cultures de printemps, avec des coups de chaleur ou des épisodes de canicule en fin de cycle. En Faverolles, c'est aussi le manque de solutions en végétation pour lutter contre la bruche qui pénalise cette culture. Alors, du côté des fabricants d'aliments, alors ceux-ci hésitent à acheter des protéagineux par crainte de ne pas avoir un approvisionnement régulier tout au long de la campagne, par manque de disponibilité sur le marché. Certains fabricants jugent également le prix du pois peu compétitif, avec un écart trop grand avec le prix du blé fourragé.
Quelles sont les perspectives d'évolution aujourd'hui?
Alors, le plan protéines mis en place récemment a pour objectif de réduire notre dépendance aux importations de matières riches en protéines, notamment de soja importé de pays tiers responsables de la déforestation. Ce plan protéines a également pour objectif également d'améliorer l'autonomie alimentaire des élevages français et d'augmenter la production de protéines végétales pour répondre à la demande des consommateurs. Notre ambition est finalement d'augmenter les surfaces de légumineuses de près de 500 000 hectares à l'horizon 2028, dont 200 000 hectares en bio, 150 000 hectares de soja, soit près d'un doublement des surfaces actuelles, d'augmenter également de 30 000 hectares les surfaces de légumes secs. Je vous remercie de votre attention.
Un grand merci Jean-Paul pour ce temps d'échange. Nous espérons que vous avez apprécié ce dernier podcast de notre série Protéines végétales. Nous serons heureux de vous retrouver prochainement dans le Réveil végétal pour aborder une nouvelle thématique végétale. À très vite.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'était le Réveil végétal, un podcast produit et réalisé par BG Police Vallée. Rejoignez notre réseau et retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site web VG Police Vallée.